esprit sur un autre objet. Et ainsi, vous verrez que petit à petit, sans aucun mal et sans aucun effort martyr sur vous-même, vous allez pouvoir vous détacher de ce que vous appelez, soit les vices, soit les bas instincts de la nature humaine. Il n'y a rien de mal en soi. Et le fait de passer sa vie à méditer sur le sexe n'est pas quelque chose de critiquable. Si cela vous rend heureux, tant mieux. Mais comme nous savons que cela ne fait pas le bonheur de l'homme, si donc vous venez nous demander comment être heureux et comment être épanoui, nous devons vous dire, eh bien, méditer là-dessus ne représente pas l'apothéose de la vie humaine. Donc, essaye d'aller voir un peu ailleurs, et notamment du côté du service, du côté de la bonne humeur, du côté de la création, même si tu ne fais simplement que des petits ouvrages, des petites peintures, ou des petits vêtements, ou des petites broderies, peu importe, crée, fais quelque chose. Et si tu investis ton énergie dans cette chose, sans avoir fait aucun effort, tu pourras constater au bout de quelque temps que ton esprit ne sera plus en méditation sur le sexe, mais que ton esprit va méditer sur l'acte de la création. Et cela est possible parce que c'est la même énergie qui est à la base des deux phénomènes. Donc, pour celui qui veut méditer et qui veut apprendre à méditer véritablement, je lui dis que la méditation ne vaut rien si il n'essaie pas de vivre dans un état méditatif toute la journée. Et qu'est-ce que je veux dire par état méditatif ? Je veux dire que l'individu doit prendre soin de l'investissement qu'il fait de son esprit, qu'il doit donc choisir méticuleusement les objets vis-à-vis desquels il compte s'investir, puisque la nature de son esprit veut qu'il soit en méditation sur les objets. Si donc un jour, à la suite de l'action d'un voisin ou d'un collègue de travail, vous vous trouvez en grande colère, en grande irritation, et que vous voulez vivre cela de façon alchimique, comment allez-vous faire? Eh bien, je ne vous dis pas de cesser votre colère. Je ne vous dis pas de vous juger en vous trouvant si peu spirituel que vous avez encore failli et que vous êtes tombé dans la colère. On arrête les critiques. On arrête de se regarder le nombril. Car ceux qui se trouvent petits, laids, inférieurs, pas évolués, sont des gens qui commettent exactement le même acte narcissique que ceux qui se trouvent beaux, grands, divins, épatants. Mais simplement, c'est un narcissisme négatif. Alors, que ce soit pour se donner des caresses ou pour s'envoyer des baffes, comme vous dites vous-même, on arrête de se regarder le nombril. Je ne suis ni beau ni laid, je suis moi. Et ce que je suis, Seigneur, je te l'offre. Je te donne tout cela, tout entier, faisant ce que tu veux, mais je te l'offre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec cette colère? Puisqu'elle n'est pas à détruire, puisqu'elle n'est pas là pour vous montrer du doigt, vous, l'affreux disciple qui a encore failli, que faut-il faire? Eh bien, il faut tout simplement concevoir cette irritation comme une somme d'énergie. Lorsque vous êtes en colère, vous remarquez que vous débordez d'énergie, vous êtes bouillonnant d'énergie, le sang circule partout, les joues deviennent rouges, la poitrine s'essouffle, les cheveux s'hérissent, les oreilles chauffent, et l'on vit profondément cette colère. Ce que je vous demande, c'est puisque vous avez réussi à réveiller toute cette formidable énergie, ayez l'intelligence de vite l'investir ailleurs et sur un point positif. Donc, il va vous falloir passer très vite du noir de la colère au blanc de la joie. Et comment faire? Eh bien, soit vous prenez l'entier de cette énergie pour essayer de concevoir vite vite un projet, et c'est ce qui se passe souvent, c'est ce que vous faites souvent sans vous en apercevoir. Vous avez un projet et puis vous vous trouvez paresseux. Vous laissez languir la chose, vous ne la faites pas, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas exactement comment faire. Et le temps passe, et le temps passe, et les amis qui attendent la chose disent un beau jour, « Mais qu'est-ce que tu es paresseux, mais tu es ignoble, tu es ingrat, nous ne t'aimons plus, nous ne te voulons plus, tu n'as rien fait, tu es insupportable. » Et à ce moment-là, la colère qui rentre en vous vous donne toute l'énergie qu'il faut, et en 2 heures vous faites ce qu'en 3 mois vous n'avez pas fait. Vous le savez cela, vous l'avez expérimenté. Et puisque donc je vous prends un exemple que vous avez expérimenté couramment, vous comprenez ce que je vous dis quand je vous dis prenez cette énergie et faites-en une énergie de création et d'exécution instantanée. Car c'est le même feu. Bon, bien sûr, il y aura un peu de colère. Mais ça, c'est simplement un peu d'humeur qui traîne. L'énergie, elle, aura pleinement été investie à la création de la chose. Donc, quand vous vivez cette grosse colère dont je parle, et admettons que vous n'avez pas de projet dans lequel l'investir, eh bien, ce qu'il vous faut faire, c'est immédiatement éclater de rire. Alors, vous pouvez me dire, mais grand frère, je suis en colère. Tu le dis toi-même, je suis immensément et profondément en colère. Alors comment veux-tu que je rie? Comment veux-tu que je fabrique un éclat de rire en moi? C'est impossible. Alors je te réponds, si tu me dis que c'est impossible, alors c'est vrai. Ça c'est certain. Il est absolument impossible pour toi de sortir de cet état. Si avant d'avoir même commencé, tu trouves que tout est impossible parce que les choses sont contraires, eh bien je te conseille de sortir de la salle et d'aller boire un café en mon honneur ou de manger une glace. Tu auras mieux occupé ton temps plutôt que de venir m'écouter. Alors soyons sérieux. Essayons, toi et moi, de te considérer comme un être intelligent. Et j'admets, comme tu dois admettre, que tu arrives à comprendre les contraires dont je parle et que tu sais parfaitement passer de la colère à la joie. Essaye. Et pour te donner une indication, je te dirai que tu ne dois pas t'attendre à trouver, sitôt après ton état de colère, un grand état de joie intérieure. Je te dis simplement, essaye de rire. Même si au début ton rire est pincé, même s'il est noir, même s'il est très amer, même si tu ne penses qu'à une chose, c'est aller donner un immense coup de pied au derrière à celui qui t'a irrité. Ris quand même. Et tu verras que en quelques secondes ou en quelques minutes, si tu es un peu lent, eh bien tu vas rire non seulement du coup de pied au derrière que tu rêves de lui donner, mais tu vas rire de la vie entière et tu diras en donnant des coups de pied dans toutes les poubelles que tu rencontreras sur le trottoir, mais qu'est-ce que la vie est bête, mais qu'est-ce que la vie est légère. Et comme celui qui se promène avec sa veste sur l'épaule, tu trouveras que la vie est un grand champ de blé et tu piqueras une marguerite dans ta bouche. Et tu chanteras avec les oiseaux, tu écouteras les ruisseaux couler, et tu écouteras en riant tous les hommes en train d'essayer de comprendre ce qu'est Dieu lorsqu'ils étudient dans les temples. Tu riras en entendant tous les hommes parler dans les universités, en essayant par force et force d'équation de comprendre ce que sont les énergies de l'univers et ce qu'est le temps et ce qu'est l'espace. Grand mystère! Et tu riras de tout cela, et tu marcheras dans la ville comme un homme libre. Un fou, c'est certain, mais un homme libre avant tout. Et cette illumination, à qui tu la devras ? À quelque chose que tu ne soupçonnais pas. À quelque chose que tu reléguais même à l'enfer. Et que tu jugeais bonne juste pour le diable ou pour la nature inférieure de l'homme. Ton illumination, tu la devras à ta colère. Et là, il y a une grande sagesse. Et si tu ressens la sagesse dont je parle, alors tu t'arrêteras. Et en pleine ville, tu loueras le mal qui existe parce qu'il révèle le bien. Et tu ne seras plus l'idiot boursouflé de sa science ésotérique ou de sa morale religieuse ou sociale qui dit « ceci est bien et ceci est mal » et « je déteste ce qui est mal et je prône ce qui est bien ». Et Dieu viendra à grands coups de tonnerre et avant que vienne le nouvel âge, il séparera les bonnes âmes des mauvaises. Et comme cela, on sera entre bonnes gens, entre braves gens, et on se regardera le nombril encore pendant 2000 ans. C'est cela que pensent les gens de petite conscience. Et quand je dis petite conscience, ce n'est pas par moquerie, ni même par jugement, c'est par douleur. Car ces gens que nous pouvons nommer de petite conscience nous sont une douleur. Et non pas parce qu'ils sont le contraire de la lumière, mais parce que, étant la lumière, ils se perpétuent dans son contraire. Et là est la douleur. Si les hommes étaient tous des diables et que cela était leur fonction, leur principe, leur essence, eh bien, nous trouverions qu'ils sont très bien. Et ils seraient très heureux eux-mêmes d'être diaboliques. Mais le principe de vie de l'homme est d'être la lumière, et d'être la plénitude, la fertilité de Dieu. Alors, lorsqu'il vit mesquinement, cet homme qui est la lumière déclenche la douleur non seulement dans sa vie, mais dans la vie du cosmos tout entier. Pourquoi ? Pas parce que le cosmos compatit et qu'il souffre avec lui, mais parce que l'homme est une partie de l'univers. L'homme est une étincelle dans cet univers. Et lorsque une partie de l'univers a mal, eh bien l'univers a mal. Et lorsque des millions et des millions de parties de l'univers ont mal, eh bien c'est toute une zone de l'univers qui est en souffrance. Vous n'existez pas comme cela simplement sur la Terre. Et hop, on envoie l'ascenseur. On éjecte l'âme dans le corps et là-bas, le petit homme fera ce qu'il peut pour vivre. La réalité du monde et de la vie, ce n'est pas cela. La réalité, c'est que le cosmos est un tout. Et ce tout existe parce que vous existez. Il n'y a donc pas le cosmos d'un côté, en haut, et puis les âmes à faire évoluer en bas, et arrivent qui peut au paradis. Regardez comment est composé votre corps, et vous comprendrez ce que je veux dire. Regardez comme une cellule après l'autre. Ces cellules forment un tout, forment un organe, forment un cheveu, un œil et le corps tout entier. Et quand une cellule vit mal, on peut dire que c'est le corps qui a mal, parce que la cellule est le corps et une partie sensible du corps. Donc, l'univers lui-même n'existe que parce que vous tous, vous existez. La vie est une vie collective. C'est une cellule mise après l'autre. C'est un composé. Et votre âme est le composant. C'est pourquoi il ne faut pas imaginer qu'il y a l'univers d'un côté, le cosmos, le paradis d'un côté et le pauvre petit homme de l'autre. Vous existez déjà dans le cosmos. Vous y êtes, vous en faites partie. Et pas par idéal philosophique, c'est un principe de vie. C'est un principe d'existence. La seule différence, ou le seul problème, c'est que vous n'êtes conscient que de la petite partie d'activité que vous pouvez avoir sur la Terre. Et vous n'avez pas conscience de l'activité globale que vous pouvez avoir dans l'univers. Alors, si vous limitez votre vérité à ce que vous pouvez voir, comme Thomas, automatiquement, la vie pour vous sera aussi très limitée. Automatiquement, votre esprit sera très limité. Automatiquement, votre éternité sera elle-même aussi remise en cause et vous allez croire à la mort. Et si vous êtes un peu plus développé et que vous ne croyez plus à la mort, vous en aurez peur quand même. Et vous vous direz, le plus tard possible. Et de façon bonne et sans douleur. Si vous ne croyez que ce que vous voyez, votre monde sera ce que vous voyez, et votre douleur aussi. Et votre douleur sera d'autant plus grande qu'existe une large partie que vous ne voyez pas. L'angoisse, c'est ça. L'angoisse ou la crise existentielle, le mal de vivre, ne vient que de cela. Le mal de vivre ne vient que de la partie de l'existence que l'on ne voit pas. Alors le petit bout d'existence que l'on voit ne suffit pas et c'est normal parce que même inconsciemment l'homme sait que sa vie ce n'est pas cela. Ce n'est pas que ce petit bout, ce n'est pas possible. Et beaucoup de gens se disent dans leur crise de désespoir, mais qu'est-ce que c'est cette vie? Je tourne en rond. Je travaille, je dors, je bois, je mange, je fais des enfants, je travaille, je dors, je bois, je mange, je fais des enfants. Et puis je meurs, mes amis meurent, mes parents meurent. Forcément, si l'on ne voit que cela, c'est une angoisse et une détresse épouvantables. Il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi courir se suicider. Et c'est pour cela que certains se suicident. Cependant, si les hommes étaient suffisamment éduqués et si eux-mêmes acceptaient suffisamment de s'ouvrir et de commencer par le principe de la confiance, de commencer à croire même ce qu'ils ne voient pas, alors leur vie deviendrait magnifique. Et non seulement ils seraient conscients de leur éternité, mais ils seraient aussi tout inondés et investis d'amour. Pourquoi les hommes manquent d'amour? Réfléchissez un instant à cela, en considérant tout ce que je viens de vous dire. Pourquoi les hommes manquent d'amour? Les hommes ne manquent pas d'amour parce qu'ils n'ont pas l'amour en eux. C'est faux. En tout homme existe l'amour. Et vous le voyez bien. D'ailleurs, vous avez même un proverbe. Et vous dites que même chez les méchants, il existe à un moment donné une étincelle d'amour. Ce qui fait que le méchant qui frappe sur tous les voisins, eh bien un jour, on ne sait pas pourquoi, il va embrasser un enfant qu'il croisera dans la rue. Et on se dira, eh bien, il n'y avait pas que du mauvais en lui. Mais pourquoi est-ce que ce genre de comportement existe? Le manque d'amour ne vient donc pas de la non-existence de l'amour en l'homme. Il faut savoir que toutes les valeurs de la divinité, toutes les valeurs de l'âme sont complètement sclérosées, parasitées, entravées. Dès que la conscience de l'individu se centre sur un niveau de vie trop petit. Si par exemple l'individu croit que la vie c'est essayer d'obtenir un métier et se défendre contre les autres, essayer d'obtenir le bonheur en choisissant bien un époux, une épouse, et essayer d'avoir de beaux enfants que l'on va bien élever pour qu'ils ne donnent pas trop de soucis et qu'ils ne deviennent pas des bandits ou des marginaux. Pour l'individu qui croit que la vie c'est cela, automatiquement ses énergies divines vont se trouver sclérosées. Parce que la vie ce n'est pas cela. Les énergies divines étant sclérosées, l'individu ne les reçoit pas. Et quand il ne les reçoit pas, il se sent faible, il se sent agressé. Et c'est alors qu'il vit le monde comme une véritable agression. Alors il est constamment en défense vis-à-vis des autres hommes. Si bien que vous n'avez qu'à frôler le pare-choc d'une voiture pour que cela déclenche une colère, une folie immense chez le conducteur de la voiture qui a été touché. Il suffit que vous fassiez mine de dépasser quelqu'un dans une file d'attente pour que cela déclenche une immense colère, une indignation. Et l'on vous jette tout de suite à l'arrière, vous le vilain, l'être immoral qui a osé prendre une place. Et ne pas attendre son tour. Tous les hommes sont agressifs de la sorte les uns envers les autres, pas par manque d'amour. Ça, ce n'est que l'effet second. Par manque d'esprit. Comprenez la chose. Ce qui fait qu'il ne sert à rien de critiquer les gens, leur dire « mais tu es un être vil, tu es vulgaire, tu n'es pas évolué, tu n'as pas d'amour, tu ne fais jamais de cadeaux, tu ne fais jamais un sourire, tu cries sur tout le monde, tu empêches la liberté des autres, tu n'as pas d'amour, tu devrais travailler ton amour. » Et Dieu qui te regarde te demande cela si tu veux évoluer. Lorsque vous parlez de la sorte, eh bien, vous parlez comme un ignorant. C'est certain que l'amour manque, mais ce n'est que l'effet second d'une chose qui manque avant tout, avant même l'amour. C'est l'esprit. Donc, si vous voulez amener les autres à l'amour, si vous voulez dilater les autres à cet amour ou à toute autre qualité divine, attachez-vous à développer d'abord l'esprit de l'autre. Vous n'arriverez pas à lui faire émettre de l'amour, de la joie, de la confiance, de la générosité, si vous n'arrivez pas à lui apporter un autre esprit, à lui faire comprendre comment être un autre esprit, un esprit plus grand, plus ouvert. L'enseignement et l'alchimie commencent là. Cela ne commence pas à l'endroit des qualités que sont par exemple l'amour, la générosité, l'aspiration spirituelle, etc. Ces qualités-là viennent ensuite tout à fait naturellement lorsque l'esprit, un esprit plus grand s'est installé. Autrement dit, vous ne pouvez pas critiquer un petit ruisseau de n'avoir qu'un filet d'eau. Et vous ne pouvez pas dire et lui répéter « mais coule, mais coule, mais vas-y, utilise ta force ». Essaye d'enlever les digues qui sont en toi. Regarde, là, tu as un rocher. Eh bien, si tu enlèves ce rocher, cela va forcément apporter un afflux d'eau. Cela va précipiter ton cours et tu verras, tu seras plein, tu seras Dieu. Vous aurez beau enlever tous les petits cailloux, tous les petits rochers qui sont au cours du ruisseau, vous n'augmenterez pas le volume d'eau. Et surtout, vous ne créerez aucune énergie, au contraire. Vous allez en faire simplement un filet d'eau qui stagne plat. Alors que malgré tout, les petits endroits de rochers, d'écueils et de cailloux, créez des nœuds, créez ce que l'on pourrait appeler même un blocage d'eau. Et cette eau-là se trouvait amplifiée et cela donnait malgré tout du tempérament au petit ruisseau, du tempérament au peu d'eau qui circulait. Mais si vous enlevez tout, eh bien il n'y a plus qu'une platitude qui se languit et qui n'arrive même plus à aller jusqu'à la mer, qui meurt simplement un jour dans une gorge un peu trop profonde. Ça, c'est ce que font les gens qui tuent leur ego, qui tue leur astral, en se disant « l'ego est mauvais, l'astral est mauvais, il n'y a dans l'astral que de basses émotions, tous les bas instincts de l'homme, tuons l'astral, tuons l'ego, tuons la sexualité, tuons la gourmandise, tuons l'ambition, tuons la créativité, tuons tout !» Et que dans cette platitude, Dieu sorte. Et le problème, et le grand désarroi de celui qui fait cela, le problème, c'est que Dieu ne sortira pas de cette platitude. Dieu est beaucoup plus présent et vivant chez celui qui fait les choses, même si c'est par défaut. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus vivant chez celui qui, par exemple, a construit un temple par orgueil. Ce n'est pas spirituel de construire un temple par orgueil, parce que l'on veut être le chef, parce que l'on veut être le roi. C'est vrai, ce n'est pas spirituel. Mais cependant, c'était le défaut qui a permis une construction. Et cette construction va servir à des personnes pour être alimentées en spiritualité ou en connaissance. Tandis que celui qui ne veut rien être, parce qu'il croit que cela est la voie. Celui qui se rend donc tout plat et inerte, celui-là ne fait rien. Il ne fait rien pour le temple, il ne fait rien pour ses frères. Il est tout simplement en train de s'entraîner à être plat. Et que peut faire Dieu avec la platitude ? Rien. Alors qu'il peut faire, même s'il existe l'imperfection. Et il fera davantage, même avec un être imparfait, mais qui bouge, qui investit et qui essaye de se transformer un peu, car il faut quand même essayer de se transformer. Il ne faut pas dire au bon Dieu, « Eh, bon Dieu, j'ai plein de défauts, c'est d'accord, mais il paraît que tu les tolères. Alors, envoie-moi dans le service et fais toute chose comme si il n'existait rien. Tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne travaille pas. » On ne peut pas passer ce genre d'accord avec Dieu, c'est certain. Il faut quand même travailler sur soi, mais les défauts ne sont pas un obstacle. C'est ce que je veux vous dire. Et cela vous est dit dans la Bible. La parole dit « Dieu n'aime pas les tièdes ». C'est ce que je viens de vous expliquer en disant que Dieu n'aimait pas les plats. C'est pour cela qu'il vous faut garder confiance en vous-même. C'est pour cela que malgré tout ce que vous savez à propos de vous-même, qui n'est pas encore clair, qui n'est pas encore divin, qui n'est pas encore pur, vous ne devez pas en faire des obstacles face à la divinité. Car vous qui vous croyez impur, du moment que vous avez l'amour et que vous avez le feu du service et de la transformation, Dieu agira à travers vous, plus qu'à travers le moine qui est en train d'égrener son chapelet en pensant qu'il doit créer une pureté plate comme un miroir. Dans ce miroir, il se regardera un jour, et une fois de plus, il n'y verra que lui-même, toujours pas Dieu. Alors que toi, petit bonhomme, qui es informe, avec tes puanteurs intérieures, avec ta bosse dans le dos, avec tes mains crochues, tu es là et tu pries Dieu, et tu fais Dieu, et tu le donnes, et tu le partages. Tu essayes de l'inventer, de le créer, pour qu'il existe. Pour qu'il existe pour tous ceux que tu rencontres au cours de ta journée. Eh bien, je te le dis, tout informe et bossu que tu sois, tu es plus près de Dieu que le moine qui prie. Je te le dis, c'est la vérité. Je ne te mens pas. Tu es plus vivant que celui qui croit aimer Dieu et qui le contemple platoniquement dans le fond de sa cellule. Tu n'as pas besoin d'être un moine ou d'être un être de perfection pour aller vers Dieu. Dieu te prend comme tu es. Et c'est au fur et à mesure que tu avances vers lui, avec cette fougue, avec cet amour, avec ce partage que tu fais avec les autres, qu'il te transforme. Et que de bossu, tu deviens un roi. Et ceux qui riaient de ta bosse, ceux-là, un jour ne rient plus. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons dit? Il n'était pas bossu, ce n'était qu'une apparence. C'était même un leurre pour nous montrer notre propre idiotie et notre propre laideur. Quand nous avons jugé et ri sur cet homme. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la bosse qui disparaît de ton dos grossit dans le dos de ceux qui se moquaient de toi. Et toi qui as le cœur pur, tu implores Dieu et tu dis, « Seigneur, ne leur donne pas la bosse que j'avais. » J'en ai moi-même assez souffert. Je ne veux pas qu'il souffre la souffrance que j'ai connue. Et Dieu qui te répond te dit, ne t'inquiète pas. Ils ne souffriront pas car ils ont déjà compris. Mais seulement, il faut qu'ils purifient le geste qu'ils ont commis envers toi. Alors pendant quelque temps, ils auront la bosse. Mais ils ne la sentiront pas vraiment, car ils sauront que c'est par purification et pas par châtiment. À ce moment-là, tout devient clair. Celui qui est devenu roi, comme ceux qui sont devenus bossus, pour les deux parties, la situation devient très claire. Et le jour où ceux qui sont bossus retrouvent leur dos bien droit, alors ils disent qu'ils ont rencontré Dieu. Et ensemble, celui qui a été raillé et eux qui ont raillé celui qui avait la bosse, ensemble, ils constituent alors un nouveau temple. C'est dans cet esprit que Jésus a dit, pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le Seigneur n'a rien entendu, parce qu'il connaît la loi. Bien sûr, le Seigneur n'en a pas voulu à ceux qui ont fabriqué la situation et qui ont amené Jésus sur la croix. Simplement, une énergie avait été créée qu'il fallait purger, et le tonnerre a éclaté. Et l'orage s'est déchaîné. Dieu en personne ne peut rien contre les énergies qui ont été déchaînées, qui ont été créées par les hommes. Aussi puissant soit-il, il ne peut pas aller à l'encontre de la création humaine. Pourquoi ? parce que l'homme est lui-même un dieu, tout simplement. Et il a donc droit de création, même si sa création est mauvaise. Il a droit de création. Seulement, si sa création est mauvaise, elle n'apporte aucun fruit. Et elle apporte des gros cailloux qui tombent du ciel, qui tombent sur la tête, sur le corps et qui font d'énormes blessures. Et c'est ce qui se passe. Et on appelle cela le karma. Et l'ignorant dit « Dieu a jugé, Dieu a châtié, les seigneurs du karma ont statué, et les seigneurs du karma ont rendu tel homme aveugle, tel autre infirme, tel autre important ou déséquilibré mental, ou à tel autre le seigneur du karma a donné une vie infernale, il sera assassiné ou violé ou tué. » Et tué, pas de n'importe quelle manière, par torture. Et les hommes ignorants, les hommes de petit esprit, se disent, eh bien, si telle chose est arrivée à tel homme, c'est parce qu'il l'a mérité. S'il se trouve dans tel état, c'est parce qu'il l'a mérité. L'esprit de l'homme, même de l'homme qui se dit civilisé, l'esprit de l'homme est tellement superstitieux qu'il voit le châtiment de Dieu partout. Car c'est cela la superstition. C'est voir le châtiment de Dieu partout. Et on croit que la vision est juste, que l'argument est juste, repose sur une vérité fondamentale et ésotérique. Parce que celui qui dit cela fait partie du monde civilisé. Nous sommes capables de faire des équations, nous sommes capables de calculer énormément, nous sommes capables d'inventer des musiques extraordinaires, nous sommes capables même de comprendre l'ésotérisme. Et rempli de sa suffisance, l'homme ne s'aperçoit même pas que son esprit réagit comme un homme des tribus les plus lointaines. Car qui peut soupçonner franchement que dire sans cesse que tel acte ou telle situation est un châtiment de Dieu? Qui pouvait comprendre que dire cette chose est faire preuve de superstition? Je suis trop évolué, je suis européen, je ne crois même plus en Dieu. Alors vous parlez, si la superstition, je m'en moque. Grand frère, tu es en train de te tromper complètement. Je te dis que je ne crois même pas en Dieu. D'ailleurs, je suis là uniquement pour savoir si tu ne dis pas trop de bêtises. Je ne te crois même pas. Alors, me dire superstitieux, moi, tu plaisantes. Et pourtant, je te le dis, tu es superstitieux, parfaitement. Et tu es superstitieux aussi quand tu dis que tel homme était bon parce qu'il a fait un bon acte. Et tu es superstitieux aussi quand tu dis que tel homme est mauvais parce qu'il a fait un acte mauvais. Et tu es superstitieux aussi quand tu dis que le monde va mourir parce que les hommes ont tout dénaturé, parce qu'ils ont tout pollué, parce qu'ils ont fait de l'argent un monstre qui mange la société. Tu es superstitieux quand tu dis ces choses. Pourquoi? Tout simplement parce que tu t'en arrêtes à juger une situation au lieu de savoir et connaître que la situation n'existe pas que parce que l'homme l'a créé. Cette situation existe parce que l'homme, qui est un dieu, a droit de création. Simplement, lorsqu'il crée et que sa création est mauvaise, il n'en retire que du mauvais. Ne va pas plus loin dans le jugement et la vérité. La vérité, c'est uniquement cela. Il n'est pas besoin de rajouter des valeurs morales, des valeurs de jugement dernier, ou des valeurs d'extériorisation de la hiérarchie, de venue du Messie et de retour du diable, juste pour embêter le Messie quand il revient. Parce qu'il fallait bien lui faire un coup tordu au Messie. Ça ne pouvait pas se passer comme il faut, vous pensez bien. Le diable devait être là. Ce qui fait que tout le monde est curieux, tout le monde cherche dans le monde où peut être l'Antéchrist. Car il est dit qu'avant le Christ viendrait l'Antéchrist. Et pour être sûr donc que l'on approche de l'heure du Christ, alors on cherche l'Antéchrist. Comme ça, si je vois l'Antéchrist, je suis sûre que d'ici quelque temps, le Christ est derrière. Et comme cela, l'esprit, le mental, vacille dans tous les arguments, dans toutes les sphères. Et c'est une folie insondable. Tu récoltes ce que tu as semé. Un point, c'est tout. Il n'existe pas plus de diable que de bon Dieu. Il y a toi. Toi et ta force. Toi et ta puissance. Toi et ton héritage divin. Toi et par cet héritage divin, le droit de création. Toi et ton droit de création. Toi et ta création. Alors qu'ensuite, au milieu de tout cet apprentissage, pour savoir comment créer et que créer, ensuite donc au milieu de cela, si tu imagines un Dieu, et puis un diable, et puis un jeu entre les deux, et puis l'ésotérisme qui va te sortir de là, et les écoles initiatiques qui vont t'aider à juguler ce diable pour ne voir que le bon Dieu. C'est ton affaire. Mais en imaginant toutes ces choses, tu ne fais que perpétuer ton délire. Je ne te dis pas que Dieu n'existe pas. Au contraire, je te le dis, il existe. Simplement, ce que tu crois de lui et ce que tu crois de toi, lorsque j'observe cela, bien sûr, cela ne me permet pas d'affirmer que Dieu existe. Mais uniquement si je considère ce que tu penses à propos de Dieu et à propos de toi. Alors je te le dis, Dieu n'existe pas. Et par là même, je te le dis, toi non plus, tu n'existes pas. Tu es une nullité et sur ces chaises, il n'y a que des trous vides, de l'antimatière, des anti-esprits, des creux, uniquement cela, des creux. Si tu sais que tu existes et si tu affirmes chaque jour ton existence, il te faut aussi accepter que Dieu existe. Mais pas comme un Dieu au-dessus de toi, qui a déjà tout prévu et qui attend le dernier métro pour te rencontrer. Dieu existe et n'existe que par toi. Ce qui fait que hors de toi, il n'y a aucun Dieu. C'est pourquoi je te le dis, si tu comptes trouver Dieu hors de toi, tu ne le trouveras jamais. Ce qui fait que si tu veux adorer un Dieu, tu te trompes. Ce qui fait que si tu veux t'asseoir une heure par jour en méditation pour envoyer tes énergies et plaire à Dieu et attendre qu'il vienne t'illuminer, tu te trompes aussi. Parce que Dieu n'est pas celui là-haut qui, voyant tes efforts, ta d'ombre de bénédiction et t'envoie un jour l'illumination en disant « Celui-là a bien travaillé, choisissons-le. » Non. En imaginant qu'il existe un Dieu en haut, un Père de tous les hommes, un Dieu qui châtie ou qui chérit, tu te coupes par là même des énergies qui vont te permettre d'évoluer. Je te le dis, Dieu n'existe qu'en toi, que par toi, en tant que toi. Donc tu es obligé, pour évoluer, d'être absolument authentique vis-à-vis de toi-même, d'être absolument pur vis-à-vis de toi-même, de te dépouiller de tout ce qui n'est pas le véritable toi-même. Tu es absolument obligé de retourner ton regard sur toi et de te dire « Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de divin ? Quand ai-je été Dieu ? Quand ai-je été ce Dieu que j'imagine être au ciel ?» Et en répondant à cette question, tu sauras si tu as médité ou pas. C'est pour cela que tu es obligé d'être authentique avec toi-même, d'être responsable de toi-même et d'assumer ta vie.